Women of the Seas. Le podcast des aventurières de la mer.
Un moment, être une mère, ça a été quelque chose. J'ai des souvenirs comme ça de d'être entre le Groenland et le Nunavut, et puis au mois de septembre, avec du mauvais temps et de la nuit, et d'avoir les deux filles malades. Du coup, on les avait mises dans le carré. Et moi, j'étais à la barre, là, et puis c'était dur. Et puis, de temps en temps, j'entendais une petite voix derrière moi qui me dit « Maman, maman !» Ah, je lâchais la barre, hop, le saut, hop, vomir, hop, on repart. Et je tenais, mais parce qu'il fallait, quoi. Je tenais avec mes enfants, en me disant « Mais le bateau, c'est aussi important que mes enfants, mais si je lâche la barre, qu'est-ce qui va se passer ?» Et si je lâche les enfants, mais qu'est-ce qui va se passer aussi? Et puis, tu te demandes pourquoi tu tiens et comment tu tiens.
France Pinson-Dussel, 51 ans, navigatrice polaire et mère de famille, embarquée à bord du voilier d'expédition scientifique Vagabond.
J'ai été étudiante à Marseille, aux Beaux-Arts de Marseille. Et tous les week-ends, sans exception, j'étais sur l'eau. J'avais un ciré et je prenais mon sac le dimanche matin avec un petit sandwich, mon petit ciré. Et puis, j'allais me proposer. Vous n'avez pas besoin d'un équipier, etc. Et à force de faire les pontons, j'ai fini par être embarquée en tant qu'équipière dans des régates. J'ai croisé même les scouts marins de France à Marseille qui m'ont dit « Ah, mais là, on n'a plus de chef. Et s'il n'y a plus de chef, tout s'arrête. Tu ne veux pas venir faire la cheftaine ?» Moi, je naviguais depuis tellement peu que bon... Et j'avais une très bonne amie qui était déjà chef d'escadre au Glénan, mais qui n'avait pas l'âge d'être cheftaine. Elle avait les compétences, moi l'âge. On avait deux équipages, donc des jeunes des quartiers sud, des quartiers nord. Et c'était hyper intéressant parce que tous ces jeunes ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'avaient pas été dans une unité comme celle-là où de toute façon, qu'on vienne de droite ou de gauche, d'ici ou de là, ça ne change rien à l'amitié. Et l'idée, c'était d'entretenir nos bateaux pendant l'année, de naviguer tant qu'on pouvait, tant que la météo le permettait, et puis surtout de préparer les camps et d'aller, par exemple, en Bretagne. Alors, il fallait faire des petits travaux pour gagner des sous. Et ouais, on faisait toujours un peu de service chez des gens, un peu de navigation, un peu de découverte. En fait, l'idée, c'était de faire vivre, de vivre ensemble des projets différents, liés à la mer, et puis d'être une belle petite équipe soudée, d'apprendre aux jeunes à être un peu autonomes. Et du coup, tout le monde apprend comment on peut monter des projets ensemble, et ça, c'est le plus important, je crois. Et la mer est un super guide pour ça. Et quand j'ai quitté Marseille, avec mon diplôme en poche de designer, je suis partie faire des tas de stages de design à gauche, à droite et à Paris. Et au bout d'un moment, j'étais dégoûtée de ce milieu de requins. Et je manquais d'air et je manquais de grands horizons. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer design naval pour joindre ce que j'aime, joindre la mer avec ce que j'ai appris. Et je me suis retrouvée à Vannes, chez Multiplast, le chantier naval, dans le bureau d'études. Un peu plus tard dans l'atelier, parce que je me suis vite rendu compte que c'était tellement simple de dessiner des choses inconstructibles. J'ai voulu un peu plus toucher la matière pour me rendre compte. Et je crois que mon attirance pour les pôles, au départ, c'était pas autre chose qu'une attirance de beauté. Et je suis toujours émerveillée par ces espaces qui sont d'une pureté, qui sont d'une beauté, qui ont l'air intouchés, qui se refont à chaque coup de vent, qui changent de physionomie dès qu'il y a un coup de vent. La neige change, ça se rugit, s'accumule, etc., etc. Et voilà, du coup, arrivé en Bretagne, en parallèle de travailler dans un chantier naval, de faire des régates tous les week-ends, là, au Cresti, la Trinité-sur-Mer, etc. Je rêvais vraiment, je me fichais totalement que ce soit le nord ou le sud. Et en fait, un jour, en régatant à la Trinité, y avait un gars qui m'a entendu parler de mon rêve d'Arctique ou d'Antarctique. Et en fait, ce gars-là, il montait une expédition en Antarctique sur Penduc 3. Et alors, il m'a proposé en se disant, tiens, celle-là, elle a l'air d'avoir un peu d'énergie et d'enthousiasme. Et si je peux mettre cette énergie et cet enthousiasme dans ce projet, pourquoi pas? Et c'est ce que j'ai fait. Et en 98, du coup, je me suis embarquée pour l'Antarctique. Ce qui est génial, c'est que quand on aime quelque chose, j'ai compris ça depuis, à force d'en parler, les choses finissent par devenir réalité. Et moi, j'étais tellement à mon enthousiasme, à mon envie, que j'en parlais sans arrêt. Et ça ne pouvait pas passer inaperçu, je crois. Et ça m'a permis d'embarquer. Je suis tombée à la mer pendant que je préparais l'expédition d'Antarctique. J'avais appris à naviguer avec un équipage féminin pour partir à la course de l'EDEC. Elle ne savait pas naviguer du tout. Et puis un jour, il y avait un beau temps d'annoncer et on est parti une nuit. Il y a eu un thermique assez violent pendant la nuit. Il y a eu 30 nœuds, il y avait 3 mètres de creux, il paraît. Et puis moi, je me suis sentie pas très bien et j'avais envie de vomir. Alors j'ai dit à une copine, tiens, vas-y, prends la barre. Moi, il faut que j'aille vomir. Et je me suis penchée par-dessus bord. Et chose qui m'arrive de temps en temps, ben, je me suis évanouie. J'ai perdu connaissance. Et du coup, je pense que j'ai glissé dans l'eau. Et en tout cas, je me suis réveillée dans l'eau, dans la mer, au milieu du plancton fluorescent. Quand je bougeais les mains, il y a du plancton fluorescent. Il y avait une nuit étoilée magnifique, mais c'était irréel. C'était à la fois tellement beau, et puis moi, je pense que tout était exacerbé. Hein. Quand je me suis réveillée dans l'eau, je sais ce que ça veut dire de tomber dans l'eau. Je sais qu'on n'était pas du tout près des côtes. C'était en plein milieu de la nuit. Je ne savais pas trop comment se passaient les recherches. Mais je me suis dit que ben là, j'étais un petit peu au pied du mur. Et tout de suite, j'ai réalisé, mais non, mais moi, je veux vivre. Hein. Je veux vraiment vivre. Et j'ai tout mobilisé pour survivre. Et en me disant, mais pourvu que les filles lancent l'alerte, quoi. Elles n'y connaissaient pas grand-chose, donc j'étais quand même un peu inquiète. Alors, il y a une autre chose, j'ai la foi en Dieu. Et je sais qu'à ce moment-là, ça m'a vachement portée. Et il m'était arrivé quelque chose un mois avant, j'ai perdu ma filleule, qui était un petit bébé, qui est mort de la mort du nourrisson. Et à ce moment-là, quand je me suis réveillée dans l'eau et que j'ai compris ma situation, je me suis adressée à elle et je lui ai dit « Agathe, maintenant il faut que tu fasses quelque chose ». J'ai eu la sensation de parler à ce petit enfant qui était comme un petit ange pour moi, là, et dire « Bon, il faut qu'elles envoient une fusée de détresse, là, les filles ». Je le dis et paf, je vois une fusée de détresse. Alors là, je me suis dit « De toute façon, il n'y a que les filles pour faire ça, quoi, c'est ouf, super ». Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait là quand on commence à avoir froid, à être un peu anesthésié, etc. Au bout d'un moment, je nageais, je priais, je nageais, me demandant bien ce qu'allait se passer. Et au petit matin, j'ai vu un avion qui avait l'air de sillonner. Après, j'ai vu un hélicoptère, et lui aussi, je voyais bien qu'il quadrillait. Et puis, il m'est passé deux ou trois fois au-dessus de moi sans me voir. Oh, quelle horreur! Quand je l'ai vu repartir, je me suis demandé ce qui se passait et si les recherches s'arrêtaient. Et là, j'avoue que j'ai failli abandonner. J'étais déjà bien anesthésié de froid et je me suis dit, tiens, c'est pas dur en fait de se laisser couler, il suffit d'un rien. Et puis et là, j'ai eu un sursaut en me disant, mais ça va pas de penser ça, je veux vivre. Et de penser à tous les gens que j'avais vus juste avant, à ma famille, à mes amis, non, j'ai pas le droit d'abandonner. Au bout d'un moment, j'ai vu un deuxième hélico arriver. J'avais un peu combattu pour réussir à mettre ma capuche en me disant, maintenant, faut pas regarder l'hélico, mon visage n'était pas phosphorescent, c'est ma capuche qui est phosphorescente. Et celui-là, il a réussi à me voir. Ça faisait 5h30 que j'étais dans l'eau et puis au porte-voix, il m'a demandé si ça allait bien et il m'a annoncé qu'il y avait une vedette SNSM qui était pas loin et puis qu'elle allait me récupérer. Moi, j'étais à 32 degrés, il était temps qu'il me récupère. J'en ai réchappé et de cette expérience-là, j'en suis ressortie en me disant la mer, elle ne m'a pas avalée, donc maintenant je peux foncer dans mes projets. Et comme j'étais en train de préparer l'Antarctique, j'ai foncé, j'ai fait une formation de voilerie pour avoir une spécialisation à bord et puis on a. Cette expérience-là a fait qu'on m'a demandé de témoigner, d'aider à faire des petits films pédagogiques sur la survie en mer. Je faisais la promotion de cassettes, c'était des cassettes à l'époque. Et c'est pour ça que j'étais sur le salon nautique, moi. Et moi, j'ai rencontré Eric, il venait d'acheter Vagabond, et il cherchait tout, il cherchait du matériel, des partenaires, et même un petit peu un équipage. Et en fait, on était basés sur le même stand. Moi, je suis arrivée alors que lui avait déjà acheté ce bateau, avait déjà pour but d'en faire un outil de travail qui soit un support logistique pour des expéditions scientifiques. Et sauf que le bateau était toujours dans un chantier, il n'avait jamais navigué. Et alors évidemment, lui, il partait dans le nord, je lui ai posé la question. Moi, je reviens du sud, hein, si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Et sud ou nord, j'étais ravie. On est parti d'abord à Saint-Quay-Portrieux. Là, on a vraiment fini, c'était notre port d'attache. On a fait deux saisons d'été au Groenland. Eric, qui avait fait son service VAT, volontaire à l'aide technique à l'époque, au Kerguelen, avait donc travaillé un petit peu pour l'Institut polaire français. L'Institut polaire a fait confiance à Eric d'abord pour recevoir 2 années de suite des équipes de géologues. Et l'idée de génie d'Eric, qui se disait que ça allait être pas facile de convaincre les scientifiques que le bateau était fiable, l'équipage était fiable. Donc son idée depuis le départ, c'était d'aller faire le passage du Nord-Est. C'est partir de l'Atlantique Nord pour arriver dans le Pacifique Nord en longeant les côtes de Sibérie. Et c'est un voyage qui n'avait jamais été fait en une saison. Parce qu'à chaque fois, tous les bateaux qu'il avait tentés s'étaient fait emprisonner par les glaces à un endroit ou à un autre et avaient fait ça au moins en 2 saisons. Ben, on a fait cette belle route et la météo a été clémente, les glaces sont restées un peu au nord. Donc on a eu notre petit chenal avec la côte sur tribord, la glace sur bâbord quasiment, pour passer de l'Atlantique au Pacifique. On est parti hiverner au Kamchatka, un peu plus au sud. Et au printemps, on a poussé jusqu'au Japon. Et ça, c'était aussi le plaisir de voyager dans le Pacifique un petit peu nord, en attendant que les glaces s'ouvrent dans le passage du Nord-Ouest pour pouvoir revenir à la maison, mais en passant par l'autre côté. Au départ, on n'y pensait même pas, mais étant passé par le Nord-Est, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire une vraie circumnavigation, passer par le Nord-Est puis le Nord-Ouest. Et là encore, un voyage assez extraordinaire. On rencontre d'abord des autochtones, des Inuits. Il y a eu beaucoup plus de glace que dans le Nord-Est. C'est une route qui est bien plus compliquée, en fin de compte, parce qu'il y a beaucoup plus d'îles. Et du coup, tous ces îles, ça fait des pièges à glace. Et il y avait beaucoup plus de glace dérivante qui, au gré des vents, partent un coup au sud, un coup à l'ouest. Enfin, suivent les vents, quoi. Et quand on est rentré de là, Vagabond a été invité au Salon Nautique de Paris. Vagabond lui-même, on l'a mis sur une remorque. On était dans le Salon Nautique et là, c'était génial parce qu'il y avait des scientifiques de Jussieu qui sont venus nous voir en nous disant on a entendu dire que vous voudriez aller au Svalbard. Est-ce que vous n'iriez pas dans telle baie en particulier ? Et en fait, je pense que nous, notre souhait, ça a toujours été de peut-être choisir dans les grandes lignes, on aimerait bien aller découvrir le Spitzberg, mais de se laisser guider par les programmes des gens. Donc on s'est retrouvé sur la côte est du Spitzberg, on a passé 5 hivers là-bas. Le bouche à oreille du côté de la communauté scientifique s'est très vite fait. Et comme ça fonctionnait bien, à partir de là, le fait d'être dans une petite baie posée sur la banquise au Spitzberg pendant 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 ans, parce qu'on ne savait pas pour combien de temps on était parti. Mais il y a plein de programmes qui sont venus s'agréger, alors soit des Français, pas toujours des Français d'ailleurs. Et c'est là qu'on a découvert que l'hiver nous plaisait autant, si ce n'est plus que l'été, et qu'il y avait énormément de choses à faire sur la banquise. La mer, en fait, sur Vagabond, on la voit plus gelée qu'en eau libre. Parce que une saison d'hivernage, c'est 9 mois de banquise, 9, 10, 11, 12, il reste 3 mois pour naviguer. C'est pas beaucoup. On n'est pas des marins d'eau douce, mais on est des marins immobiles souvent. Nous, du coup, ça date de l'année 2000, ça fait 11 ans, 12 ans maintenant. Et j'ai envie de dire, de près ou de loin, tous les programmes qu'on encadre et que l'on aide dans l'Arctique, ils s'intéressent quand même au changement de climat. Et ça passe par toutes sortes de disciplines. Il y a eu ce gros programme au Green Edge franco-québécois qui, là, nous a occupé 3 années au Nunavut. Il s'agissait d'étudier le bloom du plancton qui se développe sous la banquise, c'est-à-dire la base de la chaîne alimentaire dans l'Arctique, quand même, et qui est liée à la banquise. S'il n'y a plus de banquise, il y a beaucoup moins de plancton. Et s'il y a moins de plancton, il y a moins de tout ce qu'on veut. Ça, on arrive à l'homme, on arrive à l'ours, on arrive à la baleine. Mais pour cette discipline-là, il y a toutes sortes de micro-disciplines en biologie. Il y a de l'océanographie arctique, Il y a des gens qui s'occupent de l'atmosphère. Tout un hiver, on a eu un gros ballon captif, rouge, magnifique, qu'on envoyait une fois par semaine, assez haut dans l'atmosphère, avec des tas de capteurs pour pouvoir faire des corrélations entre ce qu'on observe comme conditions météo, on va dire, température, pression. On a souvent travaillé avec des ornithos. Et là encore, il y a des oiseaux qui sont tellement des marqueurs du climat, comme ce petit mergule nain qui se nourrit exclusivement du plancton qui se développe sous la banquise. Donc une année avec peu de banquise, et ben c'est une année peut-être avec moins de mergule nain. Des gens qui s'occupaient des phoques. L'épaisseur de la banquise et les qualités de la banquise aussi. On a souvent eu un glaciomètre à traîner sur la banquise qui mesure, quand on le traîne, ben, au fur et à mesure du trajet, l'épaisseur de la banquise. Voilà les qualités de l'eau, les qualités de la glace, les qualités de la neige. Alors ça, c'est ce que j'ai toujours le plus détesté, hein, faire des études du manteau neigeux. Ça, c'est un bon coup pour attraper l'anglais. Mais il y a des gens tout à fait spécialistes. Et comme quoi tout est ausculté au microscope, en fait, que ce soit de la vie animale ou les éléments qui forment la banquise, la neige, la glace, tout est ausculté. Puis aussi des études de glaciers. Il y avait des scientifiques canadiens qui s'occupent des interactions entre les glaciers et l'eau mer. Et qu'est-ce que ça produit justement comme nutriments, et qu'est-ce qui vit là-dedans, et qu'est-ce qui se développe. Ce sont toujours les scientifiques qui guident nos choix d'hivernage. De toute façon, on sait bien que ça sera une expérience unique à chaque fois, quel que soit le lieu, quelle que soit la partie du monde. Est-ce que c'est canadien? Est-ce que c'est le Spitzberg, l'Arctique russe? Il va se passer des choses, on va rencontrer des gens, la nature sera différente, il y aura une faune incroyable. Allier ce qu'on aime avec ce côté de se rendre vraiment utile à quelque chose, c'est ça qui nous motive. Et un petit peu plus que simplement faire une plateforme logistique, au fil du temps, avec la confiance, les scientifiques qui n'ont pas le temps de faire des manips trop longues sur la banquise, eh ben ils nous confient en général les manips à faire. Et très rapidement, on a eu des scientifiques qui sont venus pendant 15 jours, par exemple, qui nous montrent des protocoles nouveaux et puis qui nous les laissent faire jusqu'à la fonte de la banquise, par exemple. En été, on est... toute une équipe de scientifiques et nous, en général, à bord. Et on tente d'accéder à des endroits qui les intéressent. On n'y arrive pas toujours. Enfin, de plus en plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous, on a vraiment vu la différence entre naviguer il y a 20 ans sur la côte est du Groenland et puis aujourd'hui, en termes de glace, en termes de météo, de changement rapide de système météo. Donc on est très nombreux et on navigue en été, mais alors c'est intense et ça dure quand même pas très longtemps l'été arctique. La débâcle a toujours eu lieu, en 20 ans c'est marrant, toujours eu lieu, que ce soit le Spitzberg ou le Nunavut, dans la deuxième moitié du mois de juillet, entre le 17 et le 25 juillet, c'est marrant, hein, en 20 ans. Et la banquise se forme, alors dans le haut arctique, hein, vers Ellesmere, vers Grisfjord, fin octobre, et en sachant que septembre, il commence à y avoir vraiment beaucoup de nuits, et puis... bon coup de vent aussi, du coup c'est pas la période la plus facile pour naviguer, parce qu'à une navigation normale s'ajoute quand même de la glace dérivante, des icebergs, des growlers, et naviguer de nuit dans l'Arctique c'est un peu dangereux quand même, c'est pas idéal. Donc voilà, le mois de septembre se commence à sentir le roussi, il faut trouver son lieu d'hivernage. Donc, et en hiver, eh ben, on est beaucoup plus solitaire, on était deux quand on était que deux, et puis après en famille avec les filles.
Moi, j'ai pas un objectif précis à transmettre aujourd'hui. J'ai pas réfléchi dans ce sens-là par rapport à Aurore et Léonie. Je me suis pas dit on va venir ici pour leur transmettre ça. J'ai simplement envie de vivre une vie qui me semble riche, intéressante, utile, chaleureuse, familiale.
Moi, j'ai gardé le fromage.
Parce qu'on prend le temps de faire les choses, qu'on est ensemble. Laisser des traces de tout ça et qu'un jour, elles seront grandes et elles auront leurs envies. Et, mais peut-être que ce mode de vie, bon, peut-être un peu simple, qui permet d'autres choses, leur donnera envie d'aller au bout de leurs rêves, leurs idées et d'essayer des choses.
La neige, moi, je mange. Moi, je dis que la neige, c'est de la mousse au chocolat. Comme ça, j'éloigne bien parce que sinon, j'ai peur. En fait, il faut ni le mettre proche des lèvres, ni le mettre proche de la langue, et encore moins près des dents, parce que les dents, comme c'est sec, on a le droit de croquer, mais il ne faut certainement pas toucher la langue, sinon c'est drôlement dangereux.
On ne s'est pas posé la question de dire « Ah, on va fonder une famille. Ben, » on a eu envie d'avoir un enfant. Et on se sentait suffisamment à l'aise dans l'environnement pour que ça ne soit pas un frein, une question. Donc, ben voilà, je suis tombée enceinte. Et puis, c'était très rigolo parce qu'on s'est dit « Bon, ah, l'accouchement, où est-ce qu'on va accoucher ?» Je suis pas une maman très jeune. Léonie, je l'ai eue à 37 ans. C'est venu tout naturellement et on ne s'est même pas posé la question de changer de vie. C'était naturel. Ben, on sait bien que y a déjà, les Inuits ont des enfants, ils vivent pas loin de la banquise. Voilà, ça ne paraît pas infaisable. Mais par contre, on n'a pas le droit d'accoucher au Spitzberg parce qu'il n'y a pas de sage-femme. Je crois qu'il n'y en avait qu'une. Toutes les femmes enceintes, on les envoie à Tromsø. Quand on regardait le programme des réjouissances, le bébé devait arriver en février, en plein milieu de l'hiver. Alors, avant de revenir en hivernage, on a demandé au gouverneur du Spitzberg s'il voudrait bien nous offrir un vol d'entraînement de ces pilotes d'hélico-là pour revenir à Longyearbyen, parce que sinon, j'allais pas revenir en motoneige quand même, à 9 mois de grossesse, vers un hôpital. Et lui a été très sympa, il nous a dit, ben, avec plaisir, pour faire perdurer une certaine tradition de trappeurs dans l'archipel, alors bien volontiers. Mais par contre, il a posé une condition, le gouverneur. Il nous a dit, d'accord, on vous offre volontiers un vol d'entraînement, mais à une condition. Et la condition, c'est de trouver un prénom en relation avec le Spitzberg. Alors, il a dit, oui, on va trouver. Puis alors, on s'est posé la question. Alors, Ingeborg, enfin, il y a des tas de prénoms norvégiens. Et en fait, on a trouvé un super prénom. Et Léonie Donnet, c'est la première femme à avoir, enfin, soi-disant, à avoir été au Spitzberg. Et en tout cas, c'est la première femme française, ça c'est sûr, qui a suivi son fiancé, qui était l'illustrateur d'une expédition scientifique. Et elle est arrivée en bateau, sur un bateau qui s'appelait La Recherche. On se dit quand même, nous on est là pour la science, elle est arrivée pour faire de la recherche. Donc voilà, on a eu, 3 semaines avant qu'elle naisse, un vol avec le super Puma pour revenir vers Longyearbyen et puis aller à Tromsø. Et puis au retour, ben pareil, j'ai attendu un peu qu'il y ait un vol d'entraînement qui nous a ramenés sur la banquise. Et puis au bout de 15 jours, elle était sur la banquise. Et puis voilà. La seule question que j'ai posée à la seule sage-femme de Longyearbyen au retour, c'est au fait, est-ce qu'un bébé, ça peut vivre, ça peut dormir à 0 degré ou pas? Parce qu'il fait 0 degré dans la cabine. Et elle a eu une réponse magnifique. Elle nous a dit, mais vous savez, maintenant là, c'est vous, les parents. C'est vous qui êtes les experts. Alors, suivez votre instinct et ça ira très bien. Et c'est ce qu'on a fait et puis c'était tout simple. Aurore, elle est née à Brest. Mais par contre, on a refait le passage du Nord-Est quand j'étais enceinte. Et quand on est arrivé à Providencia, à l'autre bout du passage du Nord-Est, je croyais que j'étais à 6 mois de grossesse, mais en fait, j'étais à 7 mois de grossesse. Il était temps de repartir. Donc, elle a fait son petit passage du Nord-Est dans mon ventre. Et quand on est arrivé à Brest, ben, c'est vrai que les aurores boréales nous manquaient. Alors, et c'est à ça qu'on a pensé quand on l'a nommée Aurore. L'hivernage, c'est à partir du moment où on a choisi un lieu où on va pouvoir rester pendant tout le temps de la banquise. Ça veut dire du moment où on jette l'ancre dans un endroit qui nous semble un bon abri, la glace va prendre autour du bateau, le bateau va rester immobile jusqu'à ce que la banquise se fracture autour du bateau. Et c'est donc l'hivernage, ça dure 9 mois, parce que la banquise, elle est là pendant 9 mois. Et nous, on vit sur un bateau qui devient comme un refuge en montagne, parce que finalement, on descend, on a une petite échelle à l'arrière du bateau. On descend et on descend à pied sur notre glace ferme. C'est pas de la terre ferme, c'est de la glace ferme. Il y a eu des hivernages très différents en fonction du lieu, du site. Un qui nous a beaucoup marqué, c'est le premier qu'on a passé au Nunavut, parce qu'on y était en famille. Et c'est là qu'on a découvert les Inuits de Grisfjord. Grisfjord, c'est un petit village de 120 habitants qui est vraiment adossé à une montagne. Et en fait, on était parti dans l'idée d'hiverner proche de ce village. Et il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas d'abri. On n'a pas trouvé d'abri proche du village. Et c'était une grosse déception. Mais du coup, le premier abri qu'on a trouvé, il était à 50 km dans le fjord du Cap Sud. Et donc, on a posé l'ancre dans cet endroit qui nous paraissait à peu près abrité. Il se trouve que, en fait, là-bas, c'est un vrai désert. Il y avait très peu de vent. Donc, la banquise a pris tout de suite très bien. C'est figé. Il n'y a pas eu d'embâcle, de débâcle intempestive. Parce que quelquefois, au Spitzberg, on a eu des embâcles qui durent 2 mois. La banquise se forme et tac, il y a tout qui se casse pendant un coup de vent. Et il faut qu'elle se reforme. Donc, c'est très instable comme période. Alors que là, au Nunavut, le froid est tombé très fort à chaque fois qu'on était là-haut. Et donc, nous, on choisit notre site d'hivernage en fonction de plusieurs choses. D'abord, il faut que ce soit à peu près protégé, c'est-à-dire protégé des courants, protégé de la houle, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça durait, la prise en glace. Et après, on a envie d'avoir une belle vue, d'avoir un horizon sud assez dégagé pour quand même bénéficier du soleil, des panneaux solaires, et puis pour le moral, pour la beauté, etc. On espère, on est content quand il y a un iceberg ou deux pas trop loin pour aller chercher de l'eau après. Et la vie s'organise là. Et tout doucement, la banquise s'épaissit, se recouvre de neige. On voit des animaux passer, il y a des ours qui s'intéressent plus ou moins à nous. Et puis nous, on organise notre petite vie autonome. Et ça, c'est le maître mot, quand on est tout seul dans la nature. Et au début, pendant le premier mois, personne n'est venu nous voir. Pas une motoneige, pas un Inuit. Parce que la banquise, il y a quand même des endroits entre nous et le village où c'était pas très... Il y a des fractures, parce que là, il y a des courants. Donc la banquise n'était pas assez sûre. On part avec des vivres, et puis après, on va chercher de la glace. On isole le bateau avec la neige qu'on trouve pour avoir un peu plus chaud. Parce que c'est vrai que quand même, là-haut... Les températures, c'est vite et fort. On a vu moins 52 une fois. En se disant, oh là 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 là, qu'est-ce qu'on fait? On était avec nos deux filles. On sort quand même. Puis ça brûle un peu on sort moins longtemps. Et puis ce qu'on apprend là-haut, c'est vraiment à vivre avec la météo. C'est-à-dire que le jour où il ne fait pas beau, on ne sort pas. On ne va pas non plus prendre des risques. Faire pas beau, c'est-à-dire peut-être le jour où il y a un peu de blizzard, le jour où il y a du vent, le jour où neige et vent, il y a de quoi se perdre. Ok, on a des GPS, mais on peut se geler, à quoi bon prendre des risques? Alors que finalement, le propre de l'hivernage, c'est aussi d'avoir du temps. Et ça, c'est un truc qu'on savoure. Alors la lumière, c'est pas un manque non plus. Ça l'a été au premier hivernage pour moi, je me souviens. On avait mal calculé les bougies, on avait pas assez de bougies. Et puis on s'est vite rendu compte que l'énergie, c'est quand même assez vite. Dans le froid, les batteries c'est plus vite que ce qu'on imaginait dans le froid. Du coup, le moral prenait un petit peu quand même. Et puis après, et je pense qu'une fois qu'on s'est habitué à ça, et d'autant plus quand on vit proche des Inuits, c'est tout l'opposé. La nuit polaire, c'est le moment social, c'est le moment où chez les Inuits, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses en hiver. Le plus emblématique, ce sont les fêtes de Noël. Mais les fêtes de Noël, c'est 8 jours de jeu. Mais ininterrompu, de nuit entière à jouer. Alors les enfants, les adultes, les elders, c'est les personnes âgées, puis tout le monde, et ça commence à 6h de l'après-midi, ça se termine à 1h du matin le premier soir, et au bout de 8 jours, ça se termine à 8h du matin, et tout le village est décalé, et tout le monde joue ensemble, et là, ça remet les pendules à l'heure. Le fait de rire ensemble, de s'amuser, de prendre le temps ensemble, d'abord, nous, c'est là qu'on a vraiment rencontré les gens et qu'on s'est lié vraiment d'amitié avec certains, quoi. Il y a un seul lieu, en général, dans une communauté qui est capable d'accueillir tout le monde, c'est le gymnase. Donc, tout se passe au gymnase. Autant chez les Inuits, le téléphone portable est arrivé il y a maintenant peut-être 3-4 ans, autant Internet était déjà là. Et si on n'a pas Facebook, on ne sait rien. Donc sur le Facebook du village, on annonce, ah, les jeux vont commencer à 6h du soir et puis pendant toute la semaine. Donc le seul rendez-vous, c'est 6h du soir au gymnase. Et petit à petit, on voit arriver tout le monde. Les enfants, les mamans avec leur bébé dans le dos, des adultes, des ados, tout le monde. Et dans le gymnase, s'organise, je sais pas moi, un cercle avec que des enfants qui vont faire des jeux de hasard. On joue beaucoup au dé, là-bas. Des jeux de mime, alors on se met tous, alors des adultes, il faut se mettre par deux, et puis on tire des cartes, et puis au fur et à mesure, il faut mimer, je sais pas moi, faut mimer sa carte, c'est pas très commode, mais c'est marrant. Mais il y a des tas de jeux, alors il y a des jeux d'adresse aussi, en relais, il faut aller planter des clous sur je sais pas quelle chaise en bois, et il faut en planter le plus possible, et quand que tout le monde y passe. Il y a un jeu typique Inuit, qui est vachement dur, je trouve. J'arrive pas. Qui est de. Entre deux poteaux, on met une ficelle et on fait pendre un objet. Mais assez haut, hein, je sais pas moi, à 2 mètres de haut. Et il faut aller le toucher avec son pied. Ça veut dire qu'il faut déjà sauter en l'air, pas se casser la figure en redescendant, en retombant, et puis essayer de toucher ce truc-là. Et les Inuits sont super forts à ce jeu-là. Mais il y a même des jeux pour les personnes âgées. Et c'est drôle, là encore, il peut y avoir un truc qui est suspendu au bout d'un fil. Et chacune, ça c'est pour les vieilles dames, et tout le monde rigole. Et elles ont un petit instrument en os, c'est comme un peu, pas le bilboquet, mais elles doivent arriver à embrocher le truc qui est suspendu. À se la diriger un petit peu les unes dans les autres, pour arriver à embrocher le truc là-haut, quoi, le truc un petit peu plus haut. Il y a aussi le chant de gorge, pour ceux qui y arrivent. Et concours de chant de gorge à deux là, qui sont des joutes vocales, et celui qui rigole a perdu. Donc c'est quand même assez joyeux. Et être baigné là-dedans, et ben c'est assez extraordinaire. Et le plus fort là-dedans, c'est qu'en plus de ça, il n'y a pas une goutte d'alcool. L'alcool étant prohibé quand un village se décrète village sec, c'est-à-dire que l'alcool n'est pas à vendre dans le village. Et puis on n'a pas le droit de boire sur la voie publique, dans un endroit public. Et du coup, dans ce gymnase, eh ben non, mais personne ne boit. Et franchement, s'amuser pendant autant d'heures sans une goutte d'alcool, ben moi, j'avais pas vu ça depuis. J'avais jamais vu ça. À un moment donné, on s'est proposé pour passer un petit film sur le Spitzberg, pour leur montrer, en se disant, bah, comme ça, ils vont voir comment on vit là-bas. Puis voilà, leur montrer un autre petit bout d'Arctique qu'ils connaissent pas. Et voilà, ils nous ont proposé de faire ça dans l'école. Et il y a une bonne partie du village qui est venue. Et à l'issue de la projection, ben, y a une petite dame qui s'est levée, qui ne parlait pas l'anglais, ni le français évidemment, et qui s'est fait traduire et qui nous a dit, c'était assez émouvant, eh ben, je vois que vous aimez vivre, vous aimez la nature et vous aimez vivre comme nous, on aime vivre dans nos cabanes. Alors bienvenue et en tout cas, ma porte vous est ouverte, venez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Après coup, on a appris que cette femme, qui est devenue une très bonne amie, elle avait été plusieurs fois maire du village, c'était la femme chasseur la plus renommée du village, enfin c'était un personnage important dans le village. Et ce qu'elle avait dit là, ça nous a introduit vraiment dans le village. Et dès que la banquise a été praticable, ben cette Liza, elle s'appelle Liza, cette dame, avec son mari et puis je ne sais pas qui d'autre, sont venus en motoneige et ils sont venus nous apporter des parkas, 4 parkas, une parka pour chaque enfant et nous, en nous disant, vous passerez pas l'hiver sans parka. Ah ben, elle les a bien remerciés. Et après, en nous disant, bah, tiens, on n'est pas là à Noël, mais on vous emmènera un traîneau. Et puis, venez dans notre maison pour participer et être là pendant les fêtes de Noël. C'est important. Il faut que vous fassiez partie de la communauté. Et en fait, c'était, on ne peut pas vivre isolé. Et l'isolement, la vie dans l'Arctique, ce n'est pas l'isolement. Et dans cette période qui est la nuit polaire, il faut absolument avoir du contact social, du lien social. On a acheté une motoneige vers Noël et on y allait à peu près une fois par mois au village. Bon, c'était un peu l'expédition au début parce qu'il faisait quand même vraiment froid et c'était un peu le challenge hein, d'être dans le traîneau là pendant 2h30, 3h à skier, vraiment, avec les filles. Puis à chaque fois qu'on venait, il s'occupait bien de nous. Hein, et puis il nous disait, là, faut manger du ragoût de phoque avant de repartir parce que ça va vous réchauffer. Et l'année d'après, ils nous ont dit, bon, ben, il n'y a pas d'abri, mais regardez, on a une grosse grue. Si vous voulez, mais venez dans le village. Hissez le bateau sur la plage, là. Et du coup, l'année d'après, eh ben, Vagabond était sur la plage, pas très loin de chez Liza, là, avec un fil électrique tiré jusque chez elle. on leur achetait de l'électricité et puis ben, là, on faisait partie du village. Et ça a été une proposition qu'on a acceptée, mais là, pour le coup, on a encore plus vécu avec eux et c'était vraiment chouette sur leur invitation, quoi. Aurore avait 2 ans, je me souviens que c'était le plus petit enfant du village. Du coup, tout le monde l'étouffait de câlins, elle n'en pouvait plus. Et Léonie devait avoir 4 ans, donc elle était assez petite. Donc il y a une charge un peu parentale qui était un petit peu lourde. Elle n'était pas autonome, rien que pour s'habiller. S'habiller pour aller sur la banquise, c'est quand même tout un sketch, quoi. Il faut empiler. Leggings, pantalons d'hiver, des pulls, et puis la parka, et puis les moufles par-dessus, puis le cache-nez, puis le bonnet, puis la capuche. Et ben mine de rien, ça prend du temps. Et c'est beaucoup de vigilance. Du coup, avec les filles, on sortait tous les jours, de toute façon. Quand il faisait très froid, on sortait peut-être qu'une heure dans la nuit. Mais c'est pas grave, on sortait. On avait installé des balançoires sur les tangons. Ça sert au moins à ça, là, en hiver, les tangons, à suspendre des balançoires. Mais c'est vrai qu'on passait beaucoup de temps dans le bateau aussi. Et dans le bateau, ben, on avait instauré tout un tas de petits rituels. Alors déjà, Léonie, un petit peu avant l'âge, a eu envie d'apprendre à lire et à écrire. Alors ben, on a fait un peu d'école. Qu'est-ce qu'on a fait comme théâtre avec elle ? Alors, au début, c'est nous qui leur faisons le théâtre, puis après, c'est elle qui nous faisait le théâtre. Avec une couverture suspendue sur un fil et puis... Et puis des jeux d'éclairage avec les frontales qui clignotent ou qui clignotent pas. Enfin, avec les moyens du bord, en fait, on inventait des tas de jeux. Nous, on a toujours eu un peu peur. Elle se brûle vraiment avec le poil qui était vraiment à la hauteur d'un enfant. Mais c'est jamais arrivé. Léonie a bien tenté. Ben voilà, elle a vu que ça chauffait. Hein. Après, elle a fait attention. Et ben après, il y a eu toute cette période où elles allaient à l'école. Et Léonie a eu le temps de beaucoup s'intéresser à la science et à ce qu'on faisait avec les scientifiques. Commençait à être une équipière partie prenante des manips scientifiques. Plus le temps a passé, plus elle s'est investie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et ben peut-être, je ne sais pas, elle est complètement libre, mais peut-être qu'elle continuera à s'intéresser à l'Arctique et à la science. La science a l'air d'être partie pour. Et je vois bien qu'elles n'ont pas du tout perdu la conscience de ce qu'on est sur Terre, la conscience de l'environnement qu'on peut avoir quand on est là-haut. Par la force des choses, là-haut, on fait attention à l'énergie qu'on dépense, l'eau, parce que tout ça, c'est quand même compté, ou alors ça s'acquiert à force du poignet, là, quand il faut les taper sur la glace. Et aujourd'hui, on continue de réaliser à chaque retour à quel point la société de consommation nous bouffe, quoi, nous emprisonne. Nous fait croire qu'on a des tas de besoins qui ne sont pas les nôtres, qui sont les dictats de la société de consommation. Et ça, elles en sont totalement conscientes. C'est-à-dire que d'avoir vécu sobrement, on a pu, je pense, réaliser qu'on n'avait pas des besoins immenses, matériellement parlant. Et que, par contre, la proposition de la société de consommation, elle est sans fin. Elle est fatigante, elle prend du temps, elle prend de l'énergie, elle prend de l'argent. Pour moi, ce sont des freins à la liberté de chacun. Et je pense qu'elles en sont conscientes aussi. En mer, on est libre. On est libre, on laisse même pas une trace, mais on est libre d'aller là où on veut. Mais c'est plus que la liberté physique d'aller où on veut. Je trouve qu'on a un sentiment de liberté hyper fort. On se pose tout le temps des questions, nous, même en famille, parce que pourquoi pas être maître de ses choix et de sa vie ? Et ben, la mère, je trouve qu'elle nous l'apprend bien, ça. Et puis, il y a cette dimension aussi de beauté. Moi, je respire, c'est une respiration, la mer, c'est tellement de beauté, c'est tellement de, ça fait tellement de bien de vivre dans toute cette beauté. Et puis il y a une dimension, ouais, un peu quand même spirituelle, parce que ben, la mer, ça exacerbe toutes les aspirations d'être humain qu'on peut avoir. Et on a envie d'aller vers quoi ? Vers être meilleur nous-mêmes, être meilleur vers les autres, aller vers le plus beau, vers le mieux, vers le, je sais pas, ça tire vers le haut. La mer, c'est espace de liberté intérieure et extérieure. Voilà, c'est ça.
France et sa famille ont posé leur sac, au moins pour un temps, dans l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, où France est maintenant professeur des écoles. Vagabond, lui, est toujours hiverné et l'émission scientifique continue. Retrouvez le portrait de France sur le site du podcast womenofthesis.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une lieutenante embarquée sur l'abeille Bourbon, remorqueur de sauvetage de haute mer.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.